En studio avec moi, j'ai actuellement Robert Cornelier. Monsieur Cornelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur. J'ai eu le privilège hier d'écouter une de vos réalisations récentes qui traite sur les entrepreneurs non-voyants au Québec. Parlez-nous un peu.
Ben, écoutez, c'est un documentaire qui est fascinant, qui d'abord vous laisse. Au tout début, c'était de parler des problèmes d'emploi chez les non-voyants pour la chaîne Ami. Et en cours de route, on s'est rendu compte qu'il y avait le monde de l'entrepreneuriat, dans lequel il y a très peu de personnes handicapées et non-voyantes. Et là, on a embarqué sur le projet d'essayer de voir quels étaient les problèmes, ces choses-là. Et là, on a rencontré les personnes qu'on a dans le film, Daniel Bonnet, Marie Sauvé, Gérard Cécire et Gabriel Couture à Québec. Et là, on a découvert des gens qui étaient des entrepreneurs fascinants et aussi qui avaient du succès. Alors,
Je vous interromps tout de suite avant que vous disiez d'autres choses trop gentilles sur M. Couture. Il semblerait qu'il nous ait rejoint au téléphone. M. Couture, vous êtes là?
Oui, bonjour, enchanté, monsieur Brodeur.
Bonjour.
Bon, mes meilleures salutations à monsieur Cornelier, là, que j'entendais discuter, là.
Bonjour,
Et dire des
bonjour,
choses gentilles, et dire des choses gentilles.
Bon matin à vous deux.
Je vais continuer avec vous, M. Cornelier. Je vous reviens dans quelques instants, M. Couture.
Pas de problème.
Votre choc avec ce sujet-là et les gens qui lui ont prêté vie, c'est quoi?
En fait, je dirais pas tellement un choc comme un étonnement et aussi une grande surprise. Moi, je ne connais pas le monde des non-voyants. Je suis documentariste depuis 40 ans. J'ai voyagé beaucoup dans le monde international. Et là, j'ai découvert des gens qui m'ont, je dirais, renversé dans la mesure que la volonté qu'ils ont, les obstacles qu'ils ont dû surmonter et au quotidien, et d'une manière, je dirais, récurrente à tous les jours dans leur vie, m'ont beaucoup interpellé et m'ont fasciné. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je découvrais un monde que, comme je disais tout à l'heure, je ne connais pas et qui m'a, je dirais, étonné, mais agréablement étonné.
Un des aspects de votre documentaire qui est important de rappeler quand même, c'est que ces gens-là étaient bien entourés.
Oui, ça c'est aussi l'autre. En fait, j'ai vu dans les trois cas, ce qui je trouve fascinant avec ces gens-là, c'est qu'ils sont conscients de leurs limites. Et à partir de ça, ils ont compris que pour réussir, justement, ils n'ont pas le choix de faire confiance aux gens. Et ça, je dirais, c'est très rare. Je suis entrepreneur. J'étais entrepreneur moi-même avec une maison de production. Et les entrepreneurs, souvent, ne font pas confiance à beaucoup de
Ce
monde.
sont de grands paranoïaques parce qu'il n'y a que les paranoïaques qui n'ont jamais de mauvaises surprises.
C'est exact. Donc, de voir comment ils développaient la confiance et qu'ils se remettaient, dans beaucoup de cas, aux autres, moi, j'ai trouvé que c'est une leçon extraordinaire. Puis, c'est pas juste pour les non-voyants, je veux dire, c'est une leçon pour les voyants, là.
On pensait notamment, voyez-vous, quand on voit une personne en situation de handicap, très, très souvent, on voit le handicap et on ne voit plus la
Oui,
personne.
c'est ça. Mais moi, ce que j'ai découvert des personnes. Comme je disais tout à l'heure, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait beaucoup de documentaires sur des problématiques sociales et politiques à travers le monde, des gens, des militants, des gens engagés dans des luttes. Et ce que j'ai retrouvé avec les quatre personnes que j'ai filmées, c'est cette dimension-là, cette volonté-là. En même temps, avec, je dirais, une grande lucidité par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Mais justement, Gabriel disait, les limites, on se les met soi-même. Il y a autant de limites que ce qu'on se met soi-même. Et c'est vrai, je veux dire, ces gens-là démontrent qu'effectivement, je veux dire, à partir du moment qu'on fait sauter les limites, on peut aller très loin.
Oui, et M. Couture, d'ailleurs, je voyais dans le documentaire que votre secteur d'activité à vous, c'est le produit financier. Vous êtes donc
Effectivement.
beaucoup, beaucoup en représentation et en vente.
Oui, automatiquement. En développement d'affaires. Tiens, c'est sûr que le travail se partage entre ça, puis entre évidemment la gestion des actifs en tant que tel. Puis pour ça, écoutez, c'est sûr qu'on a toute une équipe là, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on peut s'imaginer en réalité que quelqu'un peut faire là. Parce que ce que j'ai compris, moi aussi, avant d'écouter ou regarder plutôt, ou entendre ce que M. Cornelier avait fait comme production, il y avait une émission là, qui se terminait juste avant le début de cette présentation-là. Et ce que j'en comprenais, c'est que pour plusieurs, là, il y a comme une raison de ne pas s'exposer au marché du travail. Je pense que toutes les raisons sont bonnes pour s'exposer au marché du travail. Puis il y a moyen, là, sans avoir soit loué la vue ou autre chose, de pouvoir s'exploiter personnellement. Puis c'est ça le point, là, c'est de s'exploiter personnellement. Peu importe la situation qu'un individu ou une personne peut vivre, là. M. Cornevier m'a fait des confidences là, sur une situation qu'il a vécue lui personnellement, puis pour plusieurs, pourrait s'écraser. Mm-hmm. Donc, il y a une question d'attitude, d'habileté, puis de travail sur soi, je pense, pour permettre d'avancer. Puis moi, je me sens pas comme une icône, là. Je pense que tout le monde a son lot de difficultés d'une façon ou d'une autre. Puis l'idée, ben, c'est pas de s'en remettre là, un handicap pour dire ben écoute, moi je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. C'est pas mal plus d'essayer de trouver des solutions. Puis je pense que c'est là où est-ce que des fois il y a peut-être avantage à pousser les gens pas mal plus à dire ben écoute, qu'est-ce que tu peux faire de plus, puis comment mm-hmm. tu peux le faire sans se donner nécessairement l'excuse d'une situation. Mm-hmm. C'est ce que, en tout cas, c'est ma perception des choses. Je vous dirais, messieurs, que je ne pense, si en tout cas il y en a qui sont paranoïaques, peut-être me reste-t-il un peu de paranoïa, mais c'est pas. C'est...
et pour l'entrepreneur qui veut se lancer en affaires, bon, on le sait, écoutez, personnellement, je ne suis pas un commerçant du tout, j'ai rien de l'entrepreneur, j'admire beaucoup les gens qui réussissent à le faire. Est-ce que la difficulté quand on est en situation de handicap, c'est pas justement ceux qui voient plus que ceux qui voient pas?
En tout cas, c'est une très belle réflexion, je vous dirais, parce qu'à quelque part, là, je pense que de toute façon, ceux qui réussissent, si on regarde par exemple juste Walmart, tiens, mm-hmm. il y a des centaines de milliers d'employés, il n'y a pas besoin d'être voyant, d'être présent. Là, les gens vont dire, ben oui, lui c'est gros, ben, lui c'est gros, mais il y a un autre, c'est autre chose, quelqu'un qui démarre soit pour se créer son propre emploi et ou pour travailler ailleurs, ben je pense que c'est exactement ça. À la base, c'est d'essayer d'enlever cette forme de limitation-là. C'est d'exploiter les talents qu'on a indépendamment de celui qu'on n'a pas. Puis je pense que ça, c'est comme une obligation, que ce soit quelqu'un d'handicapé ou qui ne l'est pas handicapé. Puis il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas un handicap qui est visible, physique, ben c'est d'autres types d'handicap. Ça peut être sur le plan psychologique, sur le plan émotif, à toutes sortes d'autres niveaux. Puis c'est ça, les gens doivent se forcer à se développer eux-mêmes. C'est le message que je pense qu'il faut...
Mais c'est vrai qu'il y a une chose aussi, je pense qu'au niveau de la société, c'est de dépasser l'handicap et de regarder la personne avec les idées mm-hmm. qu'elle apporte et ce qu'elle peut apporter aussi comme entreprise ou comme dans la société. Puis c'est vrai que les préjugés sont encore très forts.
Oui, et est-ce qu'en réadaptation, je pose la question surtout à vous, M. Couture, parce qu'on a l'impression que la réadaptation, ça vise à permettre aux gens de faire leur toilette, de trouver la cuisine dans la maison, mais pas nécessairement de jouer un rôle actif dans le monde économique. Est-ce que la réadaptation s'occupe bien de la réadaptation professionnelle?
Ben moi, je vais vous dire, écoutez, en termes, c'est très bien, c'est très visé. Moi, j'ai pas utilisé les services de réadaptation pendant plusieurs années parce mm-hmm. que ma vue s'est diminuée de façon progressive. À un moment donné, j'ai perdu la vue. J'avais de la difficulté, disons, à accepter cette situation-là. Puis même, la question de la réadaptation, pour moi, était relativement simpliste. Bon, comment pour seulement manger, là, donc comment s'organiser avec une assiette mm-hmm. quand on ne voit pas pour...
Oui, les patates à 3 heures, là.
Moi, c'est ça, les petits éléments qui entourent la vie commune. Ce qui, moi, m'a permis de peut-être la plus grande aide, c'est un aide sur le plan psychologique, donc de m'arrêter puis de dire, ben écoute, moi j'avais l'air de quelqu'un qui acceptait la situation parce que disons que j'ai un succès important sur le plan des affaires. Je suis relativement entouré, j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne dans mes déplacements. Mais en réalité, intérieurement, je ne l'acceptais pas vraiment, donc il y avait une démarche à faire. Mais sur le plan professionnel, ce que je pense, c'est qu'il y a un manque à ce niveau-là. Parce que là, les gens se disent, ben écoute, là, moi, entre autres, j'ai rencontré une femme qui perdait la vue, qui était professeure à l'école. Ben, elle me disait, ben là, je pourrais plus enseigner. Ben non, non, il y a moyen de trouver des moyens pour pouvoir continuer à enseigner. Puis au lieu de... Je pense souvent les gens s'emprisonnent eux-mêmes, là. Puis mm-hmm. la réadaptation, ben c'est un élément où est-ce que... on prend la personne en disant, ben écoute, c'est vrai que tu es dépourvu. Ben, à partir du moment où est-ce qu'on dit, c'est vrai que tu es dépourvu, ben là, la personne se cadre et se sent et se met dans un état d'une personne dépourvue, plutôt que de dire, ben écoute, trouve-en des solutions. Moi, j'ai eu consulté un médecin, là, qui lui, dans le fond, est devenu quadriplégique, là. Donc, le médecin pouvait plus faire un paquet de gestes pour traiter ses clients. Donc, comme omnipraticien, ben, il y avait un infirmier qui payait, qui, lui, pouvait poser des gestes que le médecin ne pouvait pas poser. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a des gens qui en trouvent des solutions. Il y a des gens qui trouvent des moyens. Puis l'idée, ben, c'est justement de ne pas s'arrêter, de ne pas se remettre sur l'appareil gouvernemental pour dire, ben, écoute, les gens vont soit s'occuper de moi ou vont trouver des moyens à ma place. C'est de développer de l'autonomie puis d'arrêter de penser que parce qu'il y a un moyen ou un autre, ou une difficulté ou une autre, ben là, et sans réadaptation, je vous dirais, je pense qu'il y a un bon bout de chemin à faire. À la base, d'amener les intervenants à dire, ben écoute, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui est possible de faire? Puis d'amener les gens à réfléchir, puis les amener à avancer.
C'est sur ces mots très positifs, finalement, qu'on va devoir se laisser. Monsieur Cornelier, je vous remercie. Monsieur Couture aussi. Je vous rappelle que le documentaire Rien n'est impossible a d'abord été présenté dimanche, mais sera représenté cet après-midi à 3h, jeudi le 28 à 20h, mercredi le 27 février à 15h et samedi le 2 mars à 8h. Et ça vaut la peine d'être visionné.
Il est aussi disponible sur la plateforme Ami Télé, où les gens peuvent le visionner à tout moment.
Parfait. Merci beaucoup encore.
Monsieur Baudin, merci infiniment. Merci. Monsieur Cornelier, mes meilleures salutations pour votre excellent travail.
Merci, Gabriel, et au plaisir.